معالي الوزير، حضرة النقيب، حضرة رئيسة المؤتمر، حضرات الزملاء، الحضور الكرام، أشكر أولا منظمي هذا المؤتمر على دعوتهم الكريمة، دعوة أتاحت لي فرصة التوجه إليكم وشرف المثول أمامكم ومتعة التحدث عن موضوع ذي أهمية، ألا وهو بدائل الاستشفاء التقليدي. ومما شجعني على تلبية هذه الدعوة أني كنت قد قرأت قبل أشهر وفي صحيفة لبنانية مقالا عن حال الاستشفاء في لبنان، ومما قرأته أسرد الآتي: تتضخم الفاتورة الصحية الاستشفائية في لبنان بما لا يتناسب أحيانا مع نوعية الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن اللبناني، فبعض الإحصاءات يشير إلى أن الإنفاق على الصحة في لبنان يتجاوز 10% من الناتج القومي العام. إن فاتورة الاستشفاء في لبنان تستحوذ على حصة الأسد من الفاتورة الصحية العامة، فتثقل كاهل الصناديق الضامنة وتستهلك جل موازنة وزارة الصحة العامة وتنهك ميزانية الفرد والعائلة وخاصة من ذوي الدخل المحدود. ما يعني أن النظام الصحي في لبنان تعتريه شوائب عدة تستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لوضع خطة صحية شاملة. الحضور الكرام، قبل الدخول في التفاصيل وجب علي تحديد بعض المصطلحات والمفاهيم تلافيا للخلط أو سوء التفاهم. إن الإقامة في المستشفى لأكثر من يوم واحد من أجل العلاج واستعادة الشفاء هي ما يحدد مفهوم الاستشفاء التقليدي. إن المستشفى هو مؤسسة عريقة وصرح طبي بامتياز وله دور مركزي دون منازع، وبدائل الاستشفاء لا تهدف أبدا للاستغناء عن المستشفيات، بل أنها تهدف إلى تخفيف أعبائه وبالتالي إلى تحسين الخدمات الاستشفائية. تاريخيا، أنشئ أول مستشفيات باريس عام 651 ميلادية على يد الكنيسة الكاثوليكية، وهو أوتيل ديو دو باري. أما أول مستشفى عربي فقد أنشئ في دمشق عام 707 ميلادية في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي، وكان المستشفى يدعى آنذاك البيمارستان. في فرنسا وما يجاورها من بلدان كان للمستشفى في بداياته دورا اجتماعيا بامتياز، فقد كان مخصصا لليتامى والجرحى الحروب ومحظورا على الطبقة الميسور. تطور وتحول هذا الدور حتى أصبح طبي بإجماله، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كان الإنفاق على الصحة آنذاك وخاصة الاستشفاء دون رقابة جدية حتى وقوع أول أزمة اقتصادية في بداية السبعينات. منذ ذلك الحين والأنظمة الصحية وصناديق الضمان بحالة عجز دائم ومتراكم. وأمام هذا الواقع ولدت ضرورة تخفيض فاتورة الصحية كحد أدنى من أجل إنقاذ الأنظمة الصحية المعمول بها في هذه البلدان. وهكذا كان الحافز المالي أولى دوافع البحث عن بدائل الاستشفاء التقليدي. إن الإقامة الطويلة لمريض في مستشفى بعيدا عن بيته وعن جودة العيش مع محيطه تجعل عودته إلى نسيجه الاجتماعي ذات إشكالية، وخاصة إذا كان المريض مسنا ووحيدا والمسنون كثرا في هذه المجتمعات. من هنا ولد الحافز الثاني للبحث عن بدائل الاستشفاء وهو اجتماعي. من ناحية أخرى وعلى صعيد آخر، فإن الأخماج المشفوية لزنفكسيون نوزوكوميال تعرض حياة بعض مرضى المستشفيات للخطر، وهي تؤدي أيضا إلى زيادة النفقات الطبية إلى حد كبير، حيث تصل هذه النفقات وفقا لبعض الأحصائيات إلى مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا كان الحافز الثالث للبحث عن بدائل الاستشفاء، وهو حافز صحي واقتصادي في آن. أما الحافز الرابع فهو تقني، فلولا تقدم التقنيات الطبية لما أتيح لنا البحث في موضوع بدائل الاستشفاء. ما هي بدائل الاستشفاء التي تمكن من تلافي الدخول المفرط إلى المستشفى؟ ما هي بدائل الاستشفاء التي تساعد على تقليص مدة الإقامة فيه؟ مما يتألف النظام الصحي لبدائل الاستشفاء، ما هي العوائق التي تقف حائلا أمام مشاريع بدائل الاستشفاء؟ ما هي العوامل التي قد تساعد على إنشاء مثل هذه البدائل في لبنان؟ للجواب على هذه الأسئلة سوف أستعرض معكم التجربة الفرنسية في هذا المضمار، ولكن باللغة الفرنسية، مستميحا إياكم عذرا على ذلك.
دكتور حسيني، في الكاسك الترجمة موجود يلي بفضل ترجمة فرنسية فورية للعربية أو للإنجليزية.
Tout commence avec le constat de la hausse dérapante des dépenses de santé. Je parle en France. Cette hausse a été attribuée à plusieurs facteurs. L'apparition constante des nouvelles techniques qui suscitent une spécialisation croissante des praticiens. L'augmentation de la demande de santé avec le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques. L'apparition des nouveaux fléaux, le sida, l'Alzheimer, la toxicomanie, etc. Le développement de la démographie médicale qui induit la demande et la forte médicalisation des problèmes sociaux en l'absence des structures d'accueil. Enfin, le développement des nombreuses formes de gaspillage en l'absence de tout contrôle efficaces peuvent être considérées comme alternatives à l'hospitalisation conventionnelle. Toutes les activités qui permettent d'éviter une hospitalisation ou d'en réduire la durée. Les trois objectifs de l'alternative à l'hospitalisation sont les suivantes. La maîtrise des dépenses, ça s'adresse aux financeurs, aux payeurs. La sauvegarde de l'intérêt du patient et le décloisonnement de l'offre de soins qui intéresse le praticien. Pour la maîtrise des dépenses, comment maîtriser les dépenses? En diminuant les frais d'hébergement, les frais de soins et en améliorant l'adéquation entre l'offre et la demande. Je vais illustrer l'inadéquation entre l'offre et la demande par un exemple. Un patient qui est admis dans un service de pointe avec équipement lourd, avec investissement lourd pour une cure d'antibiotiques pendant 2 à 3 semaines, c'est exactement l'inadaptation, l'inadéquation de l'offre et la demande. Pour les intérêts de patients, éviter la cassure sociale et familiale, diminuer, voire prévenir les infections nosocomiales, tout en continuant les soins en toute sécurité. Le décloisonnement de l'offre de soins, la coordination entre les différents acteurs des soins, entre tous les soignants, sans qu'il y ait entre eux une concurrence. Et cela a été acté par une circulaire ministérielle en 1993 en France. Pour composer un réseau, il ne faut pas que les composantes soient concurrentes. Enfin, ça va servir à la révalorisation du rôle de médecin généraliste et le placer au cœur de ces dispositifs d'alternatives à l'hospitalisation. Plusieurs types d'alternatives à l'hospitalisation, sans prétendre l'exhaustivité, alternative par succession, c'est l'alternance avec l'hospitalisation. La plupart du temps sont des structures qui dépendent de l'hôpital mais qui n'assure pas l'hospitalisation conventionnelle. L'hôpital du jour, la consultation externe, le recours aux urgences, la chirurgie ambulatoire. L'alternative remplacement. On évite l'admission et on facilite la sortie de l'hôpital. Traitement dans des structures ambulatoires, hospitalisation à domicile, assistance médico-technique à domicile et soins infirmiers à domicile. Autour de l'hôpital, sur cette diapositive, vous voyez quatre composantes des alternatives à l'hospitalisation, avec la connexion dans tous les sens, directement ou indirectement entre les alternatives à l'hospitalisation et entre elles et les hôpitaux. On voit très bien que l'hôpital reste quand même la pièce centrale de dispositifs de soins. On va commencer par les centres de santé. En France, les centres de santé ont vocation de faciliter l'accès de tous à des soins de qualité, privilégier une approche globale des problèmes de santé des usagers. Il ne s'agit pas des cabinets de groupe, ce sont des centres de santé avec organisation collective. Les missions légales des centres de santé en France, la mission de soins, les missions de soins, diagnostic, traitement, mission de prévention, mission d'éducation et mission de santé publique. Je prends un exemple, le centre de traitement des affections respiratoires, dont j'ai l'honneur de diriger, qui assure comme projet médical d'établissement la prise en charge ambulatoire des affections respiratoires, du diagnostic au traitement, au contrôle, à la surveillance, réhabilitation respiratoire des patients BPCO, prise en charge multidisciplinaire du syndrome d'apnée du sommeil et éducation thérapeutique des patients chroniques. Les acteurs sont des médecins, généralistes et spécialistes, toutes les spécialités autour de la pathologie respiratoire. Les paramédicaux sont divers, les infirmiers, psychologues, éducateurs thérapeutiques, kinésithérapeutes, techniciens biomédicaux et secrétaires médicaux. Le plateau technique est polyvalent. Il est plus développé que dans un service de pneumologie et le but, éviter le recours aux hôpitaux pour des examens de l'extérieur. En pneumologie, le plateau technique, au lieu d'avoir une cabine de platysmographie, je m'adresse au pneumologue, au centre de traitement des affections respiratoires, nous avons 5 cabines de platysmographie. Pour le traitement de l'apnée du sommeil, le diagnostic de l'apnée du sommeil, la capacité en moyenne d'un service en France, service hospitalier, de faire 2 diagnostics par jour. Nous avons la capacité dans ce centre ambulatoire de faire 12 examens par jour, polysomnographie et polygraphie. Plus de 5000 malades sont pris en charge, dont 20% sont des nouveaux patients. Plus de 120 stages de réhabilitation respiratoire par an et plus de 12 bilans complets du syndrome d'apnée du sommeil par jour. À mi-chemin entre l'hôpital et le domicile et à mi-chemin entre le public et le privé. L'exemple de la réhabilitation respiratoire en groupe, c'est l'exemple typique. C'est un programme de 6 semaines en groupe qui coûte dans la littérature, si c'est fait en hospitalisation, 8 571 $ par patient et par stage, et en ambulatoire, 2 615 $, et les résultats sont comparables. Quand on regarde la structure des dépenses pour la réhabilitation respiratoire, on voit qu'à l'hôpital conventionnel, pour la réhabilitation, et dans cette étude, 70% des dépenses, 6 000 $ par patient et par stage pour l'hôtellerie. En ambulatoire, l'hôtellerie, c'est 15% du budget, le transport, 15%, et 70% pour le personnel qualifié. Le coût du personnel dans les deux cas est comparable. Donc, on ne fait pas des économies sur le personnel médical. Dans cette étude sur 521 patients réhabilités, suivis pendant 21 mois, on a pu constater la diminution du nombre de jours à l'hôpital, d'hospitalisation, nombre de consultations en urgence et nombre de coups de fil donnés à leur médecin. Et la conclusion, c'est 1 euro investi, 3 euros économisés. Et l'économie est d'autant plus importante que la réhabilitation soit faite en ambulatoire. Deuxième composante, hospitalisation à domicile. Au lieu qu'on aille à l'hôpital, c'est l'hôpital qui vient chez nous. Elle permet de dispenser au domicile du malade des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement obligatoirement coordonnés. Elle concerne les malades atteints des pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives ou instables, qui, en l'absence de tels services, seraient hospitalisés en établissement de santé conventionnel. 25 schémas thérapeutiques sont éligibles en hospitalisation à domicile. Numéro 1, c'est l'assistance respiratoire. Dans cette liste, la chimiothérapie, l'éducation du patient et de son entourage, nutrition entérale, parentérale, etc., jusqu'au cinquième schéma qui s'appelle « autre traitement ». Ça veut dire que c'est ouvert pratiquement à tous les cas et la liste n'est pas limitative. Comment ça se passe? Le médecin hospitalier, dans la plupart des cas, c'est lui qui prescrit l'hospitalisation à domicile pour faciliter la sortie de son patient. Il propose un protocole au médecin coordonnateur de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile, qui accepte, après avoir consulté la faisabilité de ce protocole. Et en remettant la responsabilité de la coordination de ce traitement à domicile au médecin généraliste du patient. Vous voyez, il y a une foule de gens qui interviennent autour d'un patient en hospitalisation à domicile, mais elle est modulable. Et cas par cas, et on n'utilise pas toutes les ressources pour tous les patients, comme à l'hôpital conventionnel à peu près. Les soins sont ponctuels, comme la chimiothérapie, l'antibiothérapie, sont continus, comme les soins de nursing, et les soins sont des réadaptations dans le cas des accidents orthopédie, des cardiologies et de neurologie. Selon les statistiques en France, les admissions par schéma donnent en première place à la chimiothérapie actuellement. La chimiothérapie se fait 21% des hospitalisations à domicile. L'assistance respiratoire représente 1% et à mon avis, elle est sous-employée. Ce schéma, il est sous-employé pour l'HAD. Soins palliatifs, 16%, et la dépendance, 14%. La population qui bénéficie des hospitalisations à domicile a 88% âgée de plus de 40 ans. La pédiatrie, elle est très limitée. La prescription, la plupart du temps, 47%, émane des services de médecine, 15% des consultations externes de l'hôpital et 15% des consultations des villes. Et là, c'est important pour les consultations des villes, c'est le cas où on évite l'hospitalisation, parce que la prescription de l'hôpital, en général, c'est le cas où on tente de raccourcir le séjour. Les tarifs par nuit d'hospitalisation, entre 50 euros et 211 euros par nuit. Je vous demande de retenir le tarif pour l'assistance respiratoire qui est 189 euros par nuit d'hospitalisation à domicile. Si on regarde et on compare avec l'hospitalisation dans un service de pneumologie pour une exacerbation de la BPCO, de l'insuffisance respiratoire, 1410 euros par nuit. La différence, elle est de moins 1221 euros, c'est-à-dire moins 87% des dépenses. Troisième composante, l'assistance médico-technique à domicile. Elle prend en charge toute personne atteinte par une perte temporaire ou définitive de son autonomie, physique ou mentale, nécessitant une assistance à domicile et nécessitant un appareillage. Quelques exemples en assistance respiratoire, l'insuffisance respiratoire sous oxygénothérapie, sous ventilation non invasive ou invasive, le traitement de l'apnée du sommeil à domicile, la perfusion d'antibiotiques pour les infections, les pompes à insuline pour le diabète et le dialyse à domicile pour les insuffisants rénaux. Un exemple, l'oxygénothérapie de longue durée en France. Les indications, les conditions de prescription, les conditions de maintien de la prise en charge et la prestation exigée par la caisse d'assurance maladie sont bien établies. L'oxygénothérapie au long cours a été fondée sur deux études importantes. L'étude que vous connaissez de MRC qui a montré que l'oxygénothérapie nocturne améliore la survie des patients insuffisants respiratoires. La seconde étude, c'est l'étude NOTE, qui a montré que cette amélioration de la survie est d'autant plus importante que la durée quotidienne d'oxygénothérapie est plus importante. Parmi les bénéfices documentés de l'oxygénothérapie à domicile, de longue durée, je voudrais souligner deux. La réduction des hospitalisations pour décompensation et la diminution des coûts de santé des BPCO. On voit sur cette diapositive les dossiers d'une patiente avant le début de l'oxygénothérapie, à gauche, et à droite, l'année de, on a commencé l'oxygénothérapie au long cours, et on voit l'année précédente, elle a été hospitalisée 4 fois, et vous voyez le dossier est gros, donc a duré longtemps l'hospitalisation, et l'année de l'oxygénothérapie a divisé par 4 le nombre d'hospitalisations. C'est cette image qui a convaincu pour la première fois l'agent de la Sécurité sociale en Colorado d'accepter pour la première fois la prise en charge par l'assurance maladie de l'oxygénothérapie. L'oxygénothérapie, ce n'est pas une mise à disposition du matériel à domicile, c'est une prise en charge multidisciplinaire par les paramédicaux surtout. Cette étude qui a été publiée par le CHEST en 2001 a montré que les patients, quand ils sont suivis par des paramédicaux, obtiennent des résultats meilleurs que les patients qui disposent de matériel d'oxygénothérapie sans suivi paramédical. Et sur cette diapositive, on voit en bas les patients qui sont restés 2 années d'études, la même prise en charge, c'est-à-dire que le matériel technique. Les hospitalisations sont restées comparables, les admissions pareilles et le recours aux urgences. En haut, c'est le groupe qui a passé une année en appareillage technique, une année en appareillage technique plus suivi paramédical, et on voit la diminution de recours aux urgences très significative, la diminution aux admissions à l'hôpital significative, et la durée d'hospitalisation a baissé très significativement. Et la différence entre les deux groupes, elle est flagrante. Quand on assure un suivi paramédical à domicile, les résultats de l'oxygénothérapie sont meilleurs. Côté économique, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on améliore la prise en charge du patient, on diminue le nombre d'hospitalisations et on dépense plus pour employer des paramédicaux. Les résultats étaient contraires. Le groupe suivi par les infirmières à domicile a montré des économies à peu près 1 000 $ par patient et par an en termes d'hospitalisation, de recours aux urgences, etc. En France, je reprends le même exemple, 1 410 euros pour une nuit d'hospitalisation dans un service spécialisé. Deux nuits d'hospitalisation, le coût de deux nuits d'hospitalisation couvre 420 jours d'oxygénothérapie à domicile. Et en sachant que l'oxygénothérapie à domicile diminue les dépenses de santé, donc l'économie, elle est très claire. Dernière composante, je suis dans le temps, prend en charge les personnes âgées, malades ou en dépendance physique ou psychologique moyenne. C'est le service des soins infirmiers à domicile. Le but, c'est d'éviter les hospitalisations, de faciliter le retour au domicile et de prévenir ou retarder la dégradation de l'état de la personne âgée à partir de 60 ans. L'équipe est coordonnée par un médecin prescripteur, aidé par un infirmier coordinateur et des paramédicaux selon le schéma thérapeutique utilisé. Les soins réalisés par les SIAD sont moins complexes qu'en HAD. Des injections, des pansements, prélèvements, surveillance, toilettes, change, nursing en général. La plupart du temps, il s'agit de la suite d'une chute de la personne âgée. La durée d'hospitalisation, la plupart du temps, c'est entre 1 mois et 3 mois. Durée d'hospitalisation en SIAD, ce n'est pas hospitalisation conventionnelle. Et j'arrive au Liban, qui est un pays de transition épidémiologique où les maladies infectieuses aiguës sont encore fréquentes et les maladies chroniques comme diabète, hypertension artérielle et dépression, cancer ont une prévalence en croissance. Le vieillissement de la population touche le Liban également. On s'attend à ce qu'en 2020, 20% de la population libanaise soit âgée de plus de 64 ans. Le taux des populations urbaines est 87%. On voit que les dépenses de santé pour l'année de cette étude, 11,5% du PIB, du produit intérieur brut, en France, 9,3%. L'autre différence significative, le financement public des dépenses de santé est à la hauteur de 30% au Liban et 76% en France. La population des soignants, elle est importante. 24 médecins pour 10 000 habitants et 12 infirmières et aides-soignantes pour la même population. La pathologie respiratoire occupe la seconde place dans l'hospitalisation conventionnelle, après la pathologie cardiovasculaire. Parmi les maladies respiratoires qui conduisent à l'hôpital, les maladies chroniques respiratoires sont au troisième rang, 12%. On arrive à la couverture par l'assurance maladie ou par d'autres organismes. Une différence très importante par rapport à la France. L'organisme qui ressemble un petit peu à l'assurance maladie française, c'est le Fonds national de la sécurité sociale, qui couvre 23,4% de la population. La coopérative des agents de l'État, 4,3%. Les syndicats, les caisses des solidarités, 3,9%, l'assurance privée, 2,6%, et le gros, c'est le rien. Il n'y a pas de couverture par l'assurance maladie de 55% de la population libanaise. Cette population, en cas de besoin, elle est couverte par le ministère de la Santé. Ce qui est frappant aussi, quand on est pauvre, on est moins couvert, paradoxalement. Et quand on est aisé, on est à 75% couvert par une assurance maladie au Liban. Le Fonds national de la sécurité sociale est déficitaire, comme la sécurité sociale française. Le déficit annuel est 170 milliards livres libanaises et le déficit cumulé à payer, 710 milliards livres libanaises. Concrètement, comment ça se passe pour les patients? Quand on est assuré par le Fonds national de la sécurité sociale, en hospitalisation, 90% est assuré par la sécurité sociale et 10% par le patient. Pour les soins externes, 80% par l'assurance maladie et 20% par le patient, mais dans ce cas-là, c'est le patient qui avance les frais à 100% et attend des mois pour être remboursé. La deuxième chose à relever, c'est la couverture par le ministère de la Santé publique. Je profite de la présence de M. le ministre. 85% assure le ministère en couverture des hospitalisations et 0% pour les soins et consultations externes. On voit très bien sur ce tableau, si on nous pose une question, vous voulez aller où? C'est à l'hôpital. Le coût élevé des hospitalisations, le coût hospitalisé des hospitalisations revient à l'offre qui dépasse la demande. Dans ce cas, la tentation pour pousser à la consommation. Le taux en équipement coûteux, selon l'OMS, au Liban, il y a un suréquipement en haute technologie dans les hôpitaux du Liban. La multitude des petits hôpitaux, 72% des hôpitaux ont moins de 70 lits. Ça veut dire qu'on est presque tout le temps dans les difficultés pour assurer l'amortissement des charges fixes et de l'équipement qui est super cher. Les contrats juteux avec le ministère de la Santé publique, je pense que depuis quelques années, le ministère a repris les choses en main et il a fait baisser cet aspect. Quels sont les freins à la mise en place des alternatives à l'hospitalisation? Au Liban, la multiplication des financeurs qui ne pratiquent pas le même remboursement. Les raisons économiques de court terme. Le remboursement des soins à domicile est une charge supplémentaire, certes, si on ne regarde pas l'impact économique sur la facture hospitalière. Réticence des acteurs. À partir du moment où le remboursement des hospitalisations est plus avantageux, il n'y a pas de motivation pour aller vers les alternatives. Le cloisonnement des professions de santé, ce qui empêche la création des parcours de soins qui pourraient être l'initiateur des mouvements vers les alternatives à l'hospitalisation. Et enfin, le vide juridique. Au Liban, on ne peut pas avoir une autorisation pour une polyclinique. On est obligé d'avoir autorisation cabinet par cabinet. Pour terminer sur une note optimiste, les opportunités du système au Liban, la volonté des réformes du système. Tous les gouvernements assurent dès le premier jour leur volonté de réforme. La bonne qualité des soins existantes est reconnue. La bonne qualification et bonne expérience des médecins, la bonne volonté internationale pour aider le Liban, l'existence d'un secteur privé développé. Je pense que l'hôpital ne devrait pas être qu'une alternative aux soins à domicile. Je vous remercie.